Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Personne plus que lui n'est doué pour la métamorphose. Plus qu'un acteur, c'est un caméléon. Mais un caméléon à l'humour corrosif dont le goût de l'absurde sonne étonnamment juste, toujours. Je reçois Jonathan Lambert qui joue à la Scala à Paris, 1h22 avant la fin, pièce aussi drôle qu'intelligente, et ouais, ça peut aller ensemble. Pièce signée Mathieu Delaporte, co-auteur, vous en souvenez du triomphe théâtral de ces 10 dernières années, Le Prénom. Bonjour Jonathan Lambert.
Bonjour, merci de me recevoir.
C'est avec un immense plaisir, je dirais même un immense bonheur. Bon, je viens de parler de prénom en parlant de prénom. En fait, en vous annonçant, je devrais dire bonjour Rodolphe. Parce que votre père voulait vous appeler Rodolphe, mais votre mère préférait Jonathan.
C'est ça.
Ça aurait changé quoi, selon vous, de traverser la vie en s'appelant Rodolphe ?
Ah, ça, on le saura jamais. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que... Non, en fait, c'est pas... Enfin, vous devriez m'appeler Rodolphe Jonathan, parce que c'est un prénom composé.
J'ai vraiment...
Il y a
avec
un petit tiret entre les deux.
Mignon.
Absolument. Okay. Et vous l'avez dit, mon père voulait m'appeler Rodolphe, ma mère Jonathan. Ils n'ont pas réussi à tomber d'accord. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que quand j'ai joué Le Prénom, justement, parce qu'on a fait une reprise du prénom
oui.
par les auteurs que vous venez de citer, qui sont aussi également les auteurs d'une heure 22 avant la fin, quand j'ai joué dans la pièce la reprise à Édouard VII, c'était il y a ça 3-4 ans, c'est au moment où je me suis réapproprié ce prénom dans son intégralité. Donc c'est pour ça que sur la fiche, j'étais crédité R. Jonathan Lambert, parce que j'ai perdu mon père à ce moment-là.
Oui.
Et comme c'était le prénom que portait mon père,
reste,
que souhaitait transmettre mon père, ben je voulais d'une certaine manière le réhabiliter. Donc, et j'ai même donné aussi ce prénom-là à mon dernier spectacle, à mon dernier
Mais absolument, on va en parler. Parce que quand même, Rodolphe, c'est pas anodin. Hein. D'ailleurs,
non.
C'est le prénom de l'amant de Madame Bovary. Et puis, il est sûr que ça...
Ah ouais,
c'est... L'amant de Madame Bovary s'appelle Rodolphe.
Ah ouais.
C'est une petite patine aristo, comme ça, très monarchie de Juillet.
Ouais.
Et je me dis qu'il vaut peut-être mieux être notaire qu'humoriste quand on s'appelle Rodolphe, non ?
Tout dépend de la tête de Madame Bovary. Parce qu'on l'évoque, on l'imagine. Non, comme c'est un de mes romans préférés aussi. Mais j'avais pas noté ça, qu'il s'appelait Rodolphe.
Et oui. Bon, ainsi avez-vous... comme votre maman, dans un premier temps, on va dire, préférait le nom de Jonathan avant de poser ce R, même si depuis, effectivement, la disparition de votre papa, vous avez placé cette lettre donc d'une manière très symbolique, comme
ouais,
ça,
c'est un peu ma particule.
Devant la signature. C'est votre
peu,
particule
voilà,
à vous, mais
de
elle est devant.
Voilà.
Mais alors, Jonathan, ça convient très bien, il faut le dire, à votre physique de Peter Pan. Ce physique de petit garçon devenu adulte sans jamais avoir vieilli. Il vous ressemble profondément, ce physique. Il dit des choses de vous, ce physique de Peter Pan. Jonathan
vous
Lambert.
Savez, je sais plus, qui avait dit dans, à chaque fois dans un adulte ou dans un vieux, il y a un jeune qui se demande comment il en est arrivé là. C'est valable pour tout le monde. Non, mais après, c'est difficile d'avoir du recul sur soi, de se voir. Moi, je sais pas si je suis un Peter Pan, si je suis... Non, j'ai aucune idée. C'est très difficile de se voir et de se donner, ne serait-ce qu'un âge parfois. C'est pour ça que souvent on dit « tu me donnes quel âge aux autres ?» parce qu'on n'arrive pas à soi-même se donner un âge ou se situer. C'est très compliqué.
Jonathan Lambert, Frédéric Becbédé, sous la direction duquel vous avez tourné « L'amour dure 3 ans
ouais. »,
entre autres, puisque vous avez tourné plusieurs fois avec lui. Frédéric Becbédé dit que vous êtes fou. Voilà, vous êtes fou. Alors,
ah bon
il exagère. Il exagère un tout petit peu ou pas tant que ça ?
Oh oui, je pense qu'il exagère parce que la folie, c'est une pathologie et ça mérite quand même... en tous les cas, je ne suis pas suivi pour ça. Alors que non, mais c'est
ça
vrai
peut être une folie créatrice.
Une folie douce.
Créatrice.
On me parle souvent d'une sorte de... Pour grossir le trait, pas de schizophrénie, mais on me dit c'est étonnant comme sur scène ou dans ce qu'on a pu voir dans tes sketchs, que ce soit à la télé ou ailleurs, ou dans les personnages que tu interprètes au cinéma, il y a quelque chose qui est de l'ordre du anormal, d'un peu monstrueux, de l'extraordinaire. Et dans la vie, j'ai comme un mode de vie finalement très régulier, très classique.
Oui, parce que vous dites, par exemple, dans la vie, je suis un type assez banal qui aime partir avec sa femme et ses 3 enfants au week-end dans un break familial, voilà. Mais sur scène, j'ai pas de limite.
Bah oui, parce que c'est la cour de récréation de la vie, la scène. Donc, c'est tout ce qu'on fait pas en classe, d'une
certaine
manière.
Oui, mais quand même, vous allez encore au-delà. Comment vous expliquez cette métamorphose, ce côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde? Parce que vous êtes vraiment un caméléon. Personne n'a oublié tous les personnages, vous en avez composé plus de 150, créés pour, par exemple, l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché,
ah oui.
Et qui allait encore au-delà du délire imaginable.
Et après, c'est aussi, c'est étonnant, parce que cette multiplicité, finalement, c'est assez réducteur. C'est-à-dire qu'après, les gens ne m'appelaient que pour ce type d'exercice. Je recevais des scripts ou des pièces de théâtre où il y avait une transformation, où c'était une sorte de genre de Doubtfire, ou alors au cinéma, c'était des personnages qui... Et donc, ça devenait un petit peu répétitif. Et ça, c'est quelque chose qui m'ennuie énormément.
Parce que les gens du métier ont moins d'imagination que vous.
Peut-être, je sais pas, mais en tous les cas, non, mais on sait aussi que ça rassure les gens. On se dit, lui, il le fera très bien, ou elle le fera très bien, ce truc-là, parce qu'on le connaît dans cet exercice-là. Mais à l'évidence, ce qui nous plaît, nous, dans ce métier, c'est de se renouveler à chaque fois. Et c'est pour ça que je cultive aussi cette espèce de pluridisciplinarité,
voilà.
De faire de la scène, et de la scène, que ce soit du théâtre donc à plusieurs ou du seul en scène, de faire de la télé parce que j'adore ça, de faire de la radio parce que j'en ai déjà fait, je peux en refaire, j'en fais de temps en temps, d'écrire dans la presse,
et du cinéma, et de la fiction.
Et c'est de passer de l'un à l'autre, justement, et tout ça, c'est un vase communicant, enfin, ce sont des vases communicants, c'est-à-dire que ça se nourrit, mais il y a un dénominateur commun, c'est quand même la comédie. C'est-à-dire que quoi que je fasse, c'est toujours... L'idée, c'est de faire rire.
Bien sûr. Mais alors, celui qui sûrement avait deviné le premier ce potentiel, Jonathan Lambert, alors que vous étiez encore en fac, c'est votre père qui, paraît-il, un jour, vous avez offert un livre, comme on donne une permission. C'était « Lettre à un jeune comédien » de François Perrier. Avant qu'il ne vous remette ce livre, est-ce que vous aviez envisagé de faire ce métier ou pas ?
Oui, mais c'est vrai que vis-à-vis de mes parents, j'avais, une sorte de... Je n'osais pas non seulement leur avouer, leur dire que c'était une carrière, je me destinais à ça parce que ça me paraissait trop ambitieux, trop beau, trop fou. Je me disais, de toute façon, tout le monde a envie de devenir comédien, Donc non seulement je leur disais pas, mais même à moi j'avais du mal. J'avais du mal à me l'avouer, voilà.
Ouais.
Et puis on savait que j'avais suivi des cours de théâtre, tout ça. Et un jour, mon père m'a amené ce livre. Et j'étais très, très surpris parce qu'il était très pudique. On se parlait, mais finalement, plutôt on se parlait en surface. Il n'y avait pas toutes les questions qui devenaient un petit peu profondes.
Ouais.
On l'abordait pas vraiment. Et le jour où il est rentré avec ce livre, c'était un tout petit livre, il me l'a offert. Et j'avais été très troublé et je l'avais pris comme un message qui était une façon de dire, écoute, si t'as envie de faire ça, mais
oui, il vous a doublé, mais de manière très pudique.
Voilà, exactement.
Voilà, ouais. Tu peux y aller, mon fils.
Exactement.
Alors, dans ce métier, Jonathan Lambert, vous avez tout expérimenté, effectivement, la télé, l'animation, l'écriture, la radio, le one-man show, le cinéma et le théâtre.
Ouais.
Alors, vos mille vies, on va les évoquer tout à l'heure, mais en ce moment, vous jouez à la Scala, à Paris, une pièce écrite par quelqu'un qui est entré en fanfare dans le milieu du théâtre en co-signant il y a 12 ans avec Alexandre de la Patelière, la fameuse pièce Le Prénom, c'est Mathieu Delaporte. Le Prénom, on s'en souvient, il a récolté 6 nominations au Molière et remporté 2 Césars parce qu'il a été donc porté
adapté
au cinéma.
Ouais,
voilà. Ensemble, ils ont toujours signé des triomphes. Et puis, cette fois-ci, alors, Mathieu Delaporte dit que c'est à la faveur de ses insomnies. Il a écrit seul cette pièce, aussi intelligente que drôle, 1h22 avant la fin.
Et c'est pas une vaine promesse. Hein.
Ouais, exactement.
Je vous assure que la première, en ce qui me concerne, parce que moi j'ai repris le rôle d'Eric Elmosnino il y a une semaine, et la première, en sortant de scène, c'est ma première question, j'ai dit, on a fait combien ? Mathieu m'a regardé, il m'a dit...
1h22, parce que mais faut aller à la Scala pour savoir ce qui va se passer à 1h22. Mais on peut presque dire que c'est du théâtre d'un genre nouveau.
Je trouve que c'est une proposition très singulière aujourd'hui dans le théâtre privé d'aller sur ce terrain qui est, d'abord c'est une création, donc je trouve ça toujours très passionnant. Évidemment j'adore le théâtre classique et reprendre les pièces de répertoire, mais je trouve que c'est toujours très excitant de participer à la création d'une pièce. Et c'est effectivement une comédie, mais une comédie qui flirte avec l'étrange, le surnaturel, le métaphysique.
C'est ça.
Qu'on peut expliquer finalement de plein de manières différentes.
Presque un rire philosophique.
Oui, les gens y voient des choses, enfin le public, chaque personne dans le public peut avoir sa propre vision de cette pièce. Et d'ailleurs, ce qu'on a instauré là depuis quelques représentations, c'est très sympa avec Kian et Adèle, c'est qu'à la fin, on dit, est-ce que vous avez des questions ? Et on échange avec le public. Et on fait ça depuis quelques jours et c'est génial parce que...
Vous créez une suite interactive.
Oui, parce qu'il y a une sorte de débat.
Voilà.
Alors, pas chiant tout ça avec beaucoup de... Parce que voilà, évidemment, Kian et moi, tout ce qu'on aime, et Adèle, c'est c'est se marrer. Mais c'est ce que j'aime aussi dans cette pièce, c'est de faire cohabiter quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la comédie. Les gens rient vraiment beaucoup. Et puis, il y a des moments qui sont perturbants.
Mais alors, il est temps d'exposer le pitch. Ouais. Parce que le pitch de 1h22 avant la fin, il est très intriguant, puisqu'il dit... Pas facile de mettre fin à ces jours quand on cherche à vous tuer. Bon, ça serait trop simple d'en rester là, bien sûr. Alors, le tueur potentiel que vous interprétez donc, Jonathan Lambert, et qui, au départ, se présente comme suicidaire, s'ennuie justement à mourir. Et à rien de tel que l'humour pour détourner des balles qui ne vont cesser de rebondir ensuite.
Parce qu'il y a très intéressant, effectivement, c'est ce pitch de début, ça on peut le raconter, parce que c'est quelqu'un qui s'apprête à mettre fin à ses jours, et au moment où il va le faire, quelqu'un sonne chez lui pour le tuer. Et du coup, est-ce qu'on préfère être, quand on veut se suicider, est-ce qu'on préfère être tué,
voilà.
Ou est-ce que c'est pas finalement se faire voler son propre libre arbitre?
Oui, c'est ça, le choix de sa fin.
Voilà.
Alors, il paraît que dans la première distribution, d'1h22 avant la fin, Eric Elmosnino, qui avait créé donc le rôle que vous reprenez, après avoir lu le manuscrit, avait dit à Mathieu Delaporte, ah, je te préviens, si tu me donnes pas ce rôle, je te tue. C'est-à-dire, la lecture, elle a provoqué vraiment le même coup de foudre chez vous.
Ah ouais, beaucoup. J'ai beaucoup aimé la pièce, encore une fois parce qu'elle est singulière. Moi, j'aime l'étrange, tout ce qui est étrange me fascine. C'est ce qui appelle à des interrogations, c'est ce qui vous dépasse, c'est ce qui n'est pas vous. Et c'est ce que j'aime avec cette pièce,
c'est que ça part
d'une situation finalement très quotidienne, mais ça va vers quelque chose avec des sentiments très sincères, très vrais, de l'amour aussi.
Avec de vraies joutes verbales, cocasses, parfois à hurler de rire,
mais qui traitent du
rapport à la vie et donc à la mort.
Ouais. Et je suis très heureux de jouer dans cette pièce qui est une vraie proposition.
Presque un cadeau inattendu entre deux films et deux one-man shows, c'est ça ?
Un cadeau d'autant plus inattendu que ça s'est fait en un mois, puisque en fait ils ont prolongé la pièce qui devait s'arrêter et Eric n'était plus disponible. Et du coup il a dit moi je peux pas, et les auteurs.
Mais vous continuez
déjà...
avec Kyo Kanjandi qu'on avait découvert dans la série Bref sur Canal.
Voilà, et donc ils m'ont appelé parce que j'avais bossé avec ces auteurs, j'avais joué à La Scala, donc voilà, les choses se sont faites assez simplement. Ils m'ont dit est-ce que dans 3 semaines et demie précisément, tu serais disponible pour jouer dans notre pièce.
Je serais prêt. Voilà. Votre producteur, qui est aussi celui de Mylène Farmer, c'est très chic quand même, votre producteur, donc Thierry Suc, dit de vous, Jonathan, c'est plus un comédien qui fait de l'humour qu'un humoriste qui est comédien. Il a raison de dire ça.
Oui, peut-être. Ça me va.
C'est son avis à lui, mais.
Oui,
est-ce le vôtre ?
Je pense que pour les gens, mais c'est ce que j'aime. Ils arrivent peut-être pas d'ailleurs à me fixer dans un truc, à se dire tiens, lui il est humoriste ou lui il est comédien. Donc ça. Ouais, je suis un peu des deux.
Vous voyagez.
Ouais,
d'ailleurs, quand
exactement.
Vous déclinez votre profession, vous écrivez quoi quand on vous demande ?
Alors je vais vous dire, j'ai beaucoup
de mal. Sur l'administratif.
Mais j'ai beaucoup de mal.
Je m'en doutais.
Non, mais j'ai beaucoup de mal à écrire comédien. Je ne vais pas écrire. Alors, souvent, je me cache. Ouais, derrière, je mets auteur. Parce que dans la mesure où j'écris mes spectacles, où j'écris les personnages que j'ai pu interpréter à la télé, ou par exemple, je fais des trucs sur le digital, ou mes chroniques à la radio, tout ça, je considère qu'il y a quelque chose de. Bon, pas plus avouable, mais en tous les cas, plus précis. Plus, voilà, ça, on ne peut pas le remettre en cause.
Votre père était marchand de biens. Votre maman, artiste peintre et styliste, tous deux très gourmands et curieux de ce que l'époque produisait artistiquement. Ils vous emmenaient à des concerts, ils vous emmenaient au théâtre, voir des expos.
J'ai eu cette chance. Ils ont beaucoup suscité notre curiosité à moi et ma sœur parce qu'on avait pas mal de spectacles.
De 6 ans, c'est ça ?
Oui, absolument. Et ce qu'il y avait de bien surtout, c'est que c'était pas une chapelle. C'est-à-dire qu'on voyait pas... à l'époque, on aurait pu diviser entre des artistes... Enfin, comment dire, en gros, ma mère lisait Libé, mon père le Figaro. Et donc déjà, ça crée
la discussion.
Exactement. Et c'était très très joyeux et c'était très riche en curiosité.
Voilà, oui, c'est
mes
ça.
Parents sont
ils n'avaient
très
pas peur
curieux
d'expérimenter et de vous emmener même dans la marche, parce que par exemple,
J'ai vu Raymond Devos sur scène, mais j'ai vu Django Edwards avec mon père. Donc c'est quand même deux univers qui sont très très éloignés l'un de l'autre.
Oui, parce qu'on va dire que dans les milieux bourgeois, quand même, emmener sa progéniture voir les spectacles, on va dire quand même trash et déjanté de Django Edwards, humoriste américain totalement hors de contrôle. Peut-être plus encore hors de contrôle que vous sur scène.
Oui.
Il faudrait voir. Mais tout de même, vous aviez quel âge quand vos parents vous emmenaient voir Django Edwards?
Je sais pas, j'avais 11-12 ans.
Non.
Ou peut-être 13, mais
pas d'avance. Et qu'en pensiez-vous?
Ah ben, je trouvais ça merveilleux, je trouvais ça formidable. Oh non, il y avait une grande... Vous savez, on était très... comment dire, très... Oui, ils étaient très permissifs parce qu'ils savaient que c'était de l'éveil et qu'à partir du moment où ce n'était pas gratuit, qu'il y avait une dimension culturelle, il y avait quelque chose de forcément enrichissant. Je me souviens notamment un jour, ma mère, on annonçait les programmes télé à la radio et l'animatrice dit, et ce soir sur FR3, je pense qu'on disait à l'époque, à Marcor de Fellini. Et ma mère me dit, ah super, bon, déjà je sais ce que je regarde ce soir. Je lui dis, c'est quoi comme film? Elle me dit, non, écoute, ça va pas te plaire, c'est pas pour toi. Évidemment, quand on dit ça à un enfant, c'est le premier truc qu'il a envie. Donc je regarde ça avec ma mère, et il y avait cette espèce de folie,
ouais, la folie rablaisienne, félinienne,
avec des personnages de fous, avec un peu de cul, parce qu'il y a toujours cette dimension décadente chez Fellini. Et il y a cette scène où il y a la tenancière d'un bar tabac qui défait son bustier et il y a des mamelles qui sont la scène elle m'a marqué. Et cette folie-là, elle m'a jamais dit « Non, écoute, c'est pas pour toi, va te coucher. » Parce que pareil, je devais
avoir 12 ans. Mais après, vous en parliez avec vos parents, puisque vous aviez une douzaine d'années.
Oui, mais j'étais pas choqué, j'étais pas traumatisé. Ça participait à ma culture, tout simplement, à me bourrer le mou dans le bon
parce
sens du terme.
Le message reçu n'était pas le même en allant voir Raymond Devos, Django et Edwards et en regardant les films de Fellini.
Oui, mais dans l'idée,
mais l'addition
c'était
de tout
c'était
ça.
C'était l'addition de tout ça et c'était de montrer que la création, d'une certaine manière, c'était aussi une certaine forme de personnalité, de patte. Et justement, on y revient de marginalité.
C'est voilà. Ça.
C'est, qu'est-ce qui fait que quelqu'un vous marque? C'est qu'il n'est pas comme les autres. Voilà. Donc s'il n'est pas comme les autres, c'est pour ça que j'aime tout ce qui est un peu marginal.
Jonathan Lambert, votre maman, vous la regardiez peindre, créer, puisqu'elle est artiste peintre. Elle avait son atelier à la maison, par exemple.
Alors, elle a peint quand j'étais pas encore né. Ensuite, elle dessinait beaucoup parce qu'elle était styliste, créatrice, et c'est elle qui dessinait ses modèles. Donc, je la voyais, oui, très souvent dessiner ses modèles.
Mais est-ce que vous, confusément, vous sentiez que vous aviez un don, par exemple, pour capter l'attention, l'intérêt des autres?
Non, c'était un don, non. Après, c'était plus un... Alors, un besoin, certainement. Il y a quelque chose de l'ordre de... Alors, est-ce que c'est de l'inné? Est-ce que c'est de l'acquis? Ou en tous les cas, il y a quelque chose qui est une façon d'exister. Quand on est ado, même quand on est plus petit, on a besoin d'exister dans un groupe, de se donner une légitimité. Et moi, je l'avais trouvé à travers ça, dans l'interprétation, dans l'idée de raconter des blagues et tout, et d'attirer les regards vers moi. Mais ça vient tout seul, ouais.
Ça vient tout seul. Mais ce sont les nuls, par exemple, sur Canal, qui vous ont fait comprendre que... Un métier était possible en mêlant justement l'absurde à la comédie, tout ça décliné en sketch. Enfin, ils écrivaient un autre humour, ils faisaient naître une autre forme d'humour.
Ah bah, c'est sûr que les nuls et les inconnus, et plus encore les nuls, je me souviens, Objectif Nul, j'enregistrais chaque soir sur mon magnétoscope cette émission qui durait 5-7 minutes avec des sketchs, des fausses pubs, et tout d'un coup je me disais, tiens, il y a aussi ce métier-là qui n'est pas juste jouer dans des films, jouer dans des fictions. Il y avait juste faire de la connerie. Voilà. Mais ça m'allait très très bien.
Mais bien construite.
Voilà.
Mais alors, le Doug en communication à la Sorbonne, c'était juste pour faire diversion?
Un peu, ouais. C'était pour me rassurer, parce que parallèlement à ça, je suivais des cours des cours de théâtre. Mais c'était pour me rassurer moi, et encore une fois pour rassurer mes parents, mais alors qu'ils ne me le demandaient pas vraiment, de leur dire « Non, non, mais attendez, vous inquiétez pas, je fais aussi des études. » Et puis bon, c'est vrai que quand vous avez 18 ans, c'est toujours un peu difficile de faire le grand saut et de se dire « Voilà, je me lance vraiment dans cette carrière-là », surtout qu'on ne m'attendait pas. Hein, mais je ne regrette pas du tout, parce que ces deux années de fac m'ont apporté énormément de choses. J'avais des professeurs qui étaient remarquables, et notamment...
Dont un certain monsieur Mézil.
Oui, absolument, Eric Mézil.
Dont on va parler tout à l'heure, parce que je suis tombée sur les pastilles absolument géniales intitulées 4 minutes 17.
Ouais, dans qui lesquelles... sont devenues 5 minutes 17,
d'ailleurs. Maintenant, c'est 5 minutes 17, on va en parler.
Dans 20 ans, on aura un format télé. Voilà,
et qui servent à désacraliser l'art. Exactement. En général, plutôt l'art moderne et l'art contemporain.
Ouais.
Et on va l'évoquer tout à l'heure, parce que ça, c'est une idée formidable qui est née avec la galerie d'Emmanuel Perrotin. Mais enfin bon, il y a tellement de choses à évoquer avec vous. Alors, j'en reviens à une espèce de fausse chronologie de votre histoire, Jonathan Lambert, parce que tout ça est passionnant. Il y a donc le Doug en communication à la Sorbonne. Parallèlement à ça, vous prenez des cours de théâtre. Et puis, Et puis, un beau jour, bah, voilà que je vous aperçois à la télé. Vous avez 19 ans, mais vous avez l'air franchement d'en faire 14 et demi. Et vous êtes aux côtés de Jean-Pierre Coff dans un magazine à la fois conso et culinaire. Vous jouez le rôle de Candide auprès de Jean-Pierre Coff, qui est le Cyrano des fourneaux. Et franchement, vous étiez si angélique qu'on avait l'impression que vous sortiez du séminaire. Mais pourquoi vous avez démarré par une émission de cuisine? Puisque... Mais, vous faisiez du théâtre,
bah ouais,
puisque
mais c'était une
vous rêviez d'écrire et de faire
bah,
du seul en scène.
C'était une opportunité qui s'offrait, et les opportunités sont rares. Et surtout, ça, c'est, alors là, c'est vraiment le coup du hasard. C'est-à-dire que je me souviens très bien, c'était pendant les vacances de Noël. Mon père entend parler par la... Il avait une amie qui avait un restaurant, qui connaissait Jean-Pierre Coff. Et Coff avait dit, on fait un casting parce qu'on cherche... un garçon ou une fille qui représente la génération des jeunes, entre guillemets, versus ma génération, pour expliquer comment consommer, comment bien acheter, justement, à cette tranche d'âge, et de faire vivre ce conflit générationnel. Moi, je n'avais jamais fait de casting de ma vie.
Ouais.
Donc, en fait, l'idée de participer à ce casting, ce n'était pas pour décrocher le poste, le rôle, c'était de participer à un casting. Je voulais savoir comment ça se passait.
Non.
Donc, je fais le casting.
Manque de bol, il est pris.
Et bah, c'est un peu ça. Et on me met de côté, on est 5-6. Bon, je sens bien que... D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il y avait Laurent Mariotte qui passait le casting. On est amis, à chaque fois, on en parle.
Qui, en théorie, aurait été plus légitime.
Qui aurait été nettement plus légitime, voilà.
Qui s'est bien rattrapé depuis.
Ah oui. Et du coup, donc on me refait... passer des essais dans l'après-midi, on me garde jusqu'à, je sais pas, 19-20 heures, je sens bien qu'il y a un truc, et on me dit, voilà, la chaîne vous a choisi, avec la prod, avec Jean-Pierre, ce sera vous qui co-animerez l'émission. Je dis, d'accord, ok, et puis on m'explique, donc vous allez tourner tous les jours, je leur dis, attendez, c'est pas possible, moi je suis à la fac, ou je vais pas pouvoir faire ça, pourquoi vous êtes venus? Vous nous mettez dans l'embarras, on a envoyé tout le monde. Je dis, moi j'étais venu passer un casting, je voulais voir comment ça se passait. Et puis on m'a dit combien c'était payé, donc j'ai arrêté mes études, et j'étais très heureux. Et puis forcément, je me suis dit, c'est quand même une façon de mettre un pied dans cet univers que j'aime, qui est de toute façon l'image, le média, et si c'est pas exactement ce que je veux... voilà, c'était une occasion trop belle et d'avoir une expérience.
Et de démarrer aux côtés d'un personnage. Cette
que
émission
parce que...
a duré à l'antenne seulement 6 mois, on vous en parle encore.
Mais oui, mais Jean-Pierre Coff était un tel personnage. Moi, je le voyais à l'heure du déjeuner quand je rentrais entre le matin et l'après-midi du lycée. C'était l'époque de la grande famille et je voyais ce personnage truculent, complètement fou, qui avait révolutionné la chronique du genre. Ou le genre de la chronique, je ne sais pas. Et de jouer aussi avec lui. Il avait justement cette dimension un peu théâtrale. D'ailleurs,
oui.
Il était aussi comédien.
Mais oui.
Et donc, c'était quand même génial d'avoir cette première expérience professionnelle. Enfin, c'était quand même un cadeau, quoi.
Parrain.
Et puis, j'ai rencontré...
Comme un parrain à la télé.
J'ai rencontré avec lui Jean Carmé.
Ouais, Jean-Claude Carrière.
Jean-Claude Carrière. Donc, voilà, c'est quand même un personnage qui avait une très, très grande culture. Ouais.
Alors, cher Jonathan Lambert, le destin a parfois de l'humour. Je voudrais savoir comment... à cause d'un magnétoscope, je dis bien un magnétoscope, gagné comme ça de façon complètement anonyme, en appelant une émission sur Europe 1, justement une émission animée par Arthur, bah comment vous êtes retrouvé, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, embauché par Arthur sur TF1?
Ouais, l'histoire est assez folle. Alors oui, c'était effectivement, j'étais un grand auditeur d'Arthur et les Pirates, j'étais fan de son émission, et je m'étais inscrit, les auditeurs pouvaient s'inscrire pour participer, il fallait juste dire, raconter 2-3 conneries à la radio, et puis très souvent, on repartait avec un cadeau. Et on m'appelle un jour, je m'étais mis sur la liste, et je pense qu'il manquait d'auditeurs, comme ça doit arriver en fin d'émission, puis de toute façon, il y a des cadeaux qui n'ont pas été distribués. Bon, je ne sais plus ce que je raconte, ça dure, mais... 33 secondes, Arthur dit « Bon, bah ok, bah, toi, je crois que j'avais raconté une histoire de chat, toi et ton chat, vous allez repartir main dans la main avec un magnétoscope. » Donc je suis hyper content, c'est la première fois de ma vie que je passe en direct à la radio, et en plus je gagne un magnétoscope. Et ce magnétoscope, j'en profite pour le revendre. Je dis au magasin où j'avais gagné le bon cadeau,
ouais.
je leur dis « Est-ce que si je
rajoute
de l'argent ?» Voilà,
ah,
si je rajoute un peu d'argent, est-ce que je peux avoir une caméra?
Voilà.
Parce que je voulais avoir ma caméra et commencer à faire mes sketchs. J'avais plein d'idées. On me dit, bah oui, pas de souci, c'est comme un bon. Donc j'achète une caméra avec, je fais mes premiers sketchs.
Oui.
C'était enfin, il n'y avait pas de montage, donc je faisais un stop et puis je faisais le plan suivant. Enfin voilà, c'était très, très à l'ancienne.
C'était l'époque pionnière.
Exactement. Et je fais comme ça des espèces de parodies, des petits sketchs que je montre à mes potes. ça fait rire bon mes amis. Bon, après, les amis, parfois, vous savez, ils sont un peu gentils, ils veulent vous faire plaisir. Mais un jour, il y a le grand frère d'un ami qui connaissait quelqu'un qui travaille avec Arthur, qui dit, mais tu sais, il y a un mec qui fait des sketchs avec sa caméra, c'est assez marrant, machin. Et je rencontre donc Arthur et Stéphane Courby, qui depuis s'étaient donc associés pour créer Case Productions.
Mais oui.
Et je rentre donc dans cette boîte et je grandis.
Et vous êtes embauché.
Et je suis embauché.
Par Case
et je grandis avec cette boîte qui a grandi, évidemment, qui est devenue.
Et là, vous avez fait à Case Productions absolument tous les postes. C'est-à-dire chroniqueur, caméraman, journaliste, auteur de sketch et même présentateur du magazine exclusif.
Ouais, le magazine. De coordination aussi sur
voilà,
un jeu.
Le magazine People exclusif parce que, quand même, il a triomphé en access sur la Une.
Ouais, c'était un genre de 50 minutes inside, mais au quotidien.
Mais voilà, mais alors, vous auriez pu devenir, cher Jonathan Lambert, le Cyril Ferraud de TF1.
Ouais, pourquoi pas.
Pourquoi même. Pas
Non, mais c'est, vous savez, c'est, mais moi, je pars du principe que toutes les expériences sont extrêmement enrichissantes. Et au pire, je vais vous dire, si vous vous plantez, si c'est pas ce que vous imaginiez, si c'est pas, vous dites non, c'est pas mon truc, ça vous permet de mieux faire vos choix la fois suivante. Donc,
bien sûr.
En aucun cas, j'ai. Alors, je dis pas que je fais tout, mais je, avant de décliner, quand même, je réfléchis bien parce que. Comme on le dit si bien, ce qui ne tue pas rend plus fort.
Mais alors pourquoi vous êtes retrouvé au début des années 2000 ou en fait en 99, je crois, sur la chaîne Comédie dirigée par Dominique Farrugia, Comédie où officiaient d'ailleurs les Robin des Bois et Cadet Olivier.
Il se trouve que Case Productions, donc la boîte de Stéphane Courby et d'Arthur, était voisine, collée l'immeuble de Comédie. Et moi, je regardais KDO dans la cour, les
Il
n'en
faut pas davantage.
Avec, voilà,
non, mais
c'est
extraordinaire.
C'est quand même une succession de
Donc,
hasards.
Donc, faites 10 mètres sur le trottoir.
Et je les voyais se marrer sur le trottoir avec leurs perruques, leurs accessoires tout pourris. Mais voilà, c'était vraiment ce que je visais, ce que j'avais envie de faire. Et puis moi, comme sur cette émission exclusive, j'essayais d'apporter un petit peu. J'ai une petite écriture où je faisais un petit plateau de lancement un peu déconnant, des petites interventions un peu amusantes. Mais bon, tout ça dans un ton TF1 quand même consensuel.
Oui.
Bien. Après, je m'amusais beaucoup. Et un jour, je vais voir Stéphane Courby. Et je lui en suis très, très avis redevable. Je lui dis, écoute, voilà, il y a la chaîne Comédie dirigée par Farrugia juste à côté. Est-ce que tu penses que tu pourrais m'organiser un rendez-vous avec Farrugia? Parce que c'est vraiment mon rêve de faire ça. Et ça faisait 3 à 4 ans que je bossais chez Case. Il m'a dit, ok, je t'organise ça. Donc, je me retrouve face à Dominique Farrugia. Donc là, c'est c'était les nuls, c'était pour
Alors
moi.
Alors que
un
dit-on,
totem.
Que fait-on pour conquérir
C'est ça. Et il me dit, écoute, bon, moi, j'ai vu tes trucs, oui, c'est marrant. Si tu veux, on a besoin de quelqu'un pour faire les pré-génériques de la grosse émission. Ça dure une minute chaque jour, face caméra. Tu fais un petit billet d'humeur. C'est pour donner envie aux téléspectateurs de regarder la chaîne. J'écris ça.
Bon, une minute, ça devient 5, ça devient 10, 15.
Non, et puis il me dit surtout, c'est bon, ça fait rire, donc tu poursuis. Et l'année suivante, il me propose, puisque les Robin des Bois partaient, de rejoindre l'équipe de la grosse émission avec KDO et plein d'autres.
Le Graal, le rêve. Alors, c'est là, donc, dans la grosse émission, que vous avez osé vos premières compositions de personnages, grimés, déguisés, travestis, perruqués. Bon, c'était absolument épatant, mais je voudrais savoir pourquoi ce goût si prononcé pour les déguisements. Ça va devenir d'ailleurs votre signature.
Oui.
Pourquoi le travestissement ?
Alors, pour une raison très simple, c'est que quand vous devez écrire 2-3 sketchs par jour, vous ne pouvez pas être dans la grâce, dans du...
Il faut tout de suite être efficace.
On parlait de Bovary tout à l'heure, mais on peut pas être aussi brillant que Woody Allen, entre autres. Voilà. Mais, donc, on va vers quelque chose qui vous rassure. Et ce qui rassure, c'est la pantalonnade, on va dire, c'est le déguisement, c'est l'outrance. Donc, oui pour une perruque, oui pour un accessoire, oui pour du cri, oui pour des déjections, pour que ça tâche, pour que ce... Voilà, que c'est une façon, en fait, de pallier à ce... C'est une heure par jour faire rire les gens, c'est quand même... C'est
le
mission.
Défi voilà. Et donc, puis, à travers un masque aussi, on dit forcément des choses qu'on ne dit pas à visage découvert.
Ça passe plus facilement. Bon, c'est pour ça que par la suite, j'ai commencé, je vais pas dire à me détourner de ça, mais j'ai eu un spectacle qui s'appelait Perruque, qui était un peu le prolongement de ça. Le spectacle suivant, c'était sur les dictateurs, était beaucoup plus centré sur alors, on parlait de personnages, mais je ne les incarnais pas. Et le dernier spectacle, Rodolphe, est aussi beaucoup plus intime et il n'y a pas de personnages et pas de travestissement. Ça a fait partie d'une période... Il y en a qui ont eu leur période rose, j'ai eu ma période perruque.
Voilà, exactement. Et on se souvient tous, bien sûr, pour l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, de tous les personnages, vous en avez créé, je crois, plus de 150. plus loufoque.
Peut-être pas, mais pas loin. En tous les cas, entre 130, ouais, un truc comme ça.
Bah, c'est 4 pas
ans,
mal.
L'émission étant hebdomadaire, mais bon, il n'y a pas l'été, donc ouais, tu vas faire 4 fois 400. Ouais, pas loin.
Pas loin.
Ouais.
Alors, l'humour qui passe par l'art du travestissement, c'est pas courant en France. En revanche, c'est dans la culture anglo-saxonne. On pense au Monty Python, à Jim Carrey, aux frères Farrelly. Et le travestissement, il va souvent avec le goût de l'absurde. Pourquoi on a perdu ça depuis Molière ? N'êtes pas nombreux à utiliser ce genre d'humour.
Là, c'est les références, Jim Carrey, Molière, j'aimerais bien leur arriver à la cheville. Non, je ne sais pas. Après, moi, c'est ce qui... Vous savez, c'est un métier qui est en vérité assez égoïste. Je le dis parfois, je dis, on fait rire avec ce qui vous fait rire. Vous ne pouvez pas faire rire les autres si ce que vous utilisez, la matière que vous utilisez, ne vous fait pas rire. Donc, moi, je me suis servi de ça parce que c'est des trucs qui me font rire. L'absurde, et le déguisement, la folie, le surréalisme, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rire.
En fait, inventer tous ces personnages tragicomiques, ça vaut peut-être aussi une bonne analyse.
J'en ai pas besoin.
Non, mais
enfin, vous savez, comme on dit, tout bien portant est un malade qui s'ignore.
Voilà, c'est ça. Et vos enfants, Jonathan Lambert, parce que vous en avez 3, n'ont jamais été décontenancés en voyant à la télé ou sur scène leur père
Je crois pas.
Ainsi grimé.
Ils ne me l'ont jamais dit. Et encore une fois, là, maintenant qu'ils sont plus en âge de voir et d'avoir, en tous les cas, du recul et de juger ce que je fais.
Il est né à 19 ans, je crois.
Ouais. Comme je suis maintenant dans quelque chose de beaucoup plus, alors je dirais pas de plus réservé, de plus, parce que c'est pas, je pense pas être devenu chiant, parce qu'il n'y a plus de père. Mais c'est bien aussi de se renouveler. J'allais pas jusqu'à 50, 60 ans porter des perruques, faire des personnages. Moi, j'ai arrêté Ruquier au bout de 4 ans parce que...
C'est vous qui avez décidé,
c'est
d'ailleurs.
C'est moi qui ai décidé, l'émission continuait. Je me suis dit, non, mais il y a un moment donné...
Allez, on passe à autre chose.
Faire envie que pitié.
Donc, voilà.
Et c'est pour ça que ça reste un bon souvenir dans la tête des spectateurs, mais pour moi aussi.
Parce que l'effet n'est pas retombé. Voilà. Mais justement, quand vous tournez, par exemple, dans L'amour dure 3 ans, dirigé par Becbédé, vous n'êtes pas du tout dans le registre de la loufoquerie, parce que vous parliez de réserve. Mais Becbédé vous choisit même pour incarner un personnage presque normal. Cette gravité qui est carrément saupoudrée dans pas mal de scènes d'émotion, elle vous plaît beaucoup ?
Oui, parce que c'est aussi la part de sincérité. Et je pense que l'humour ne fonctionne que quand il y a de la sincérité. Enfin, l'humour est d'autant plus beau, si je puis dire, si il s'appuie sur quelque chose, une situation qui est sincère.
Alors, c'est un cliché de le dire, mais bon, faire rire est plus difficile qu'émouvoir. Alors, puisque là, on vient de parler de cinéma avec Becbédé, en préparant cette émission, je suis tombée sur un article dans lequel vous disiez que, en fait, il existe un public qu'il est pratiquement impossible de faire rire quand il se réunit sous la bannière de sa profession. Ce public, il est constitué des gens de cinéma, quand ils se retrouvent par exemple devant la scène des Césars, pour cette cérémonie des Césars. En 2007, Jonathan Lambert, vous avez co-écrit la présentation des Césars avec Valérie Lemercier. Je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était absolument virtuose. Pourtant, vous avez trouvé que la salle n'avait pas peut-être suivi comme elle aurait dû ? Vous aviez un sentiment de frustration ? Vous pensiez que les rires seraient plus épanouis ?
Oh, peut-être, mais ce qu'il y a de... on n'a pas le même sens de l'entertainment qu'ont les anglo-saxons. Il y a quelque chose de... Comment dire ? Alors, est-ce que c'est de la pudeur ou est-ce que c'est un souci d'image ? Mais c'est vrai que c'est toujours très compliqué. En fait, c'est risqué de faire rire. Quand vous donnez un texte à un comédien que vous proposez quelque chose, vous trouvez ça drôle, mais si vous ne l'assumez pas à 200-300%, c'est sûr que ça ne va pas être drôle. Déjà, ça peut ne pas être drôle en l'assumant à 200-300%, donc si on y va avec un petit peu...
Valérie Lemercier, elle assume à 1000%.
Ah, oui, bien sûr, mais c'est ça, évidemment. Mais quand ce sont des gens qui ne sont pas, en plus, des professionnels de l'humour, qui sont soit de très, très bons comédiens... Et d'ailleurs, c'est dommage, parce que je trouve toujours que les comédiens qui ne sont pas connus pour la comédie, quand on les met dans la comédie, ils ont justement cette charge de sincérité, de gravité qu'ils apportent et qui redouble d'efficacité part de comédie. Et je trouve ça admirable.
J'imagine que toutes les épouses d'humoristes ont de l'humour, mais la vôtre d'épouse, elle a quel genre d'humour ?
Bah, j'espère qu'elle a un peu le mien, sinon elle doit bien s'emmerder.
Parce que, je ne sais pas, mais peut-il arriver qu'un humoriste divorce parce que son épouse ne rit plus de ses blagues ? Non, mais elle est sérieuse, ma question. Hein.
Bah, c'est un beau pitch de film, en tous les cas.
C'est un beau pitch de film.
Ouais. Ah. Bah, c'est valable ou pour le mari d'une humoriste aussi. Hein.
Exactement.
Mais ça peut être une belle histoire. Bon. Et puis, il y a aussi cette dualité entre... Il y a des gens qui sont très drôles sur scène, qui sont très chiants dans la vie, et des gens qui sont très drôles... dans la vie et qui n'arrive pas à passer l'essai de la scène.
Jacqueline Maillon était un personnage très introverti, austère, grave, mélancolique dans la vie alors qu'elle faisait hurler de rire des salles entières. Donc, ouais.
Je peux pas vous dire comment je suis dans la vie. Hein. J'ai pas suffisamment de recul. Faut demander.
Bon, je te montrerai à votre épouse. Ouais. Jonathan Lambert, pendant le confinement, vous avez lancé sur la chaîne YouTube d'une grande galerie d'art dirigée par Emmanuel Perrotin, vous avez lancé un programme court consacré à l'art moderne et l'art contemporain, programme qui vise à en fait désacraliser l'art, mais en nous apprenant mille choses de façon complètement désopilante. Vous avez baptisé donc ces pastilles 4 minutes 17, comme ça marche très bien, ça continue alors que le confinement est terminé. Ça s'appelle maintenant 5 minutes 17, c'est follement drôle, très argumenté. Et on y parle d'ailleurs aussi bien de Man Ray que de Calder, de Raoul Dufy que de Giacometti. Très instructif, un peu fou. J'espère que vous allez continuer. Alors, on le voit sur YouTube, mais pourquoi pas
à la
télé ?
Alors d'abord, c'est pas sur YouTube, c'est... Enfin, on peut le voir sur YouTube.
Moi, j'ai vu sur YouTube.
C'est surtout sur les réseaux de la galerie Perrotin, donc sur du type Instagram ou Facebook. Et effectivement, quand il y a eu ce premier confinement, moi, ce qui m'avait marqué, c'était que dans les biens de première nécessité n'étaient pas inclus notamment les livres, les librairies. Et j'en avais beaucoup voulu... un bien grand mot au gouvernement, mais je t'ai dit, c'est quand même pas normal qu'on puisse pas. Il y a des gens qui sont seuls, qui vont être confinés, dont la lecture est un. Il y a même des gens qui n'ont pas d'ordinateur, qui sont pas connectés, et la lecture reste quand même le minimum vital de culture et d'enrichissement personnel, surtout quand on vit une situation comme celle-là. Et puis l'autre point qui m'avait pas attristé, mais je m'étais dit, tiens, c'est dommage parce que moi, je prends beaucoup de plaisir à aller dans les musées et les galeries. C'est ce que je fais dès que je suis en province, notamment en tournée. J'adore visiter le musée local. Et donc, j'ai appelé Emmanuel Perrotin, qui est un galeriste depuis...
De réputation internationale.
Voilà. On se connaît, on est amis, parce que j'allais déjà dans sa galerie il y a très très longtemps. Et je lui ai dit, écoute, je pense que c'est le moment de créer un contenu digital, le temps du confinement, pour que continue de vivre l'activité culturelle des galeries et des musées. Comme ça, les gens peut-être ne pourront pas y aller, mais on leur montrera des choses. Donc, on a fait ce petit programme qui était destiné à durer peut-être 1, 2, 3 numéros.
Et qui vit toujours aujourd'hui, et tant
mieux
pour nous.
Et ça fait 2 ans que ça dure. Et en plus, on a...
Parce que c'est formidable. Et
l'idée, c'est de réconcilier surtout un univers qui est parfois perçu comme quelque chose d'un
peu élitiste,
parisianiste aussi.
Mais vous infusez tout ça de votre folie, de votre fantaisie. Et en même temps, je le disais, c'est... très instructif.
Et la seule ambition, enfin prétention, c'est de faire découvrir, de d'éveiller la curiosité. On n'explique pas vraiment parce que c'est très court. On aborde ça avec beaucoup de légèreté, voire même de dérision, parce que moi je comprends tout à fait que parfois des gens devant un monochrome se disent mais c'est quoi ce... Moi je peux
le
faire.
Oui, parce que bon, là, ça participe de cette faculté donc à rester tout le temps en éveil, mais on peut aussi rire des excès de l'art contemporain.
Et c'est très bien, et c'est très salutaire.
Et il y en a.
Et bien sûr, il faut remettre en question ce qui doit l'être, parce que justement, c'est ce qui permet à l'art d'avoir une vraie légitimité. Je trouve que c'est extraordinaire dans un pays comme en France aujourd'hui, où on a des collections, des musées de fous, des galeries. Il y a plein de gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une galerie. C'est gratuit. Il y a des galeries où vous entrez, c'est comme un musée, il y a une quiétude, il y a des œuvres magnifiques, ça ne vous coûte rien, au pire vous allez perdre un quart d'heure si vraiment ça vous emmerde, mais en tous les cas, ça vaut le coup de pousser la porte des galeries. Donc voilà, l'ambition c'était d'éveiller la curiosité et surtout toucher un public qui n'était pas acquis à la cause, parce que souvent, ce type de programme est réservé à des gens qui de façon aiment ça, donc on ne va pas faire des mules. Et moi, c'est ce que je voulais, c'était toucher des gens qui n'ont jamais mis les pieds soit dans un musée, soit dans une galerie, qui ne connaissent pas les artistes dont on parle, mais tout d'un coup ils se disent « Ah ben tiens, ça, j'aime bien, mais j'ai envie d'en savoir un peu plus. » Et puis, on a aussi des professionnels de la culture, type Laurent Lebon ou Roselyne Bachelot, notre ministre de la Culture, qui a répondu à nos questions. Donc, c'est de mélanger aussi, un contenu éditorial riche et sérieux, mais dans un enrobage un peu pop et déconnant.
Mais parce que ça, vous savez le faire avec virtuosité. Alors, ça s'appelle 5 minutes 17, ces pastilles. On les voit sur les réseaux sociaux, l'Instagram de la galerie d'Emmanuel Perrotin. Mais quand verra-t-on ça en télé ?
Ah ben, on verra, peut-être qu'un jour, oui, pourquoi pas.
Il faut vous en occuper, Jonathan Lambert.
On a évoqué effectivement l'idée de transformer ça en programme télé. Ça pourrait en tous les cas avoir sa place, toute sa légitimité. Si on nous garantit qu'on puisse garder ce ton déconnant...
C'est ça, cette fantaisie.
Parce que sinon, on va retomber sur l'émission classique. Et puis moi, je ne me destine pas à devenir un médiateur. Voilà, c'est pas...
Prof d'art contemporain.
Voilà, moi,
Jonathan Lambert.
Ce que je veux, c'est rester dans l'humour avant tout. Mais au service d'une cause, si je puis dire.
Entre nous, quelle expo faut-il absolument voir en ce moment ?
Alors, je ne l'ai pas vu, mais il y a Toyen au Musée d'Art Moderne qui vient de commencer. Et c'est une artiste, déjà c'est une artiste femme, et c'est bien qu'aujourd'hui on puisse avoir des focus sur des artistes qui avaient été un petit peu laissés dans l'ombre parce que tout simplement c'était des femmes. Et notamment chez les surréalistes qui étaient très révolutionnaires à l'époque, qui avaient des idées très parfois subversives sur les femmes. Ils étaient plutôt machistes, hein, toute la bande des grands surréalistes.
Ah ouais.
Et Toyen au Musée d'Art Moderne, pour connaître un peu son œuvre. Alors là, on parlait de fantastique et d'étrange. Ouais, il faut voir ça.
Il faut voir ça, au Musée d'Art Moderne de Paris. Bon, Jonathan Lambert, revenons à vous. Avec votre petit gabarit menu sans un gramme de graisse, eh ben, j'ai appris...
Qu'en savez-vous ?
Je vous vois. J'ai appris que vous avez couru 2 marathons et participé à un triathlon dans sa formule raccourcie, c'est-à-dire 300 mètres de natation, 20 km à vélo et 5 km de course à pied. Faut bien tout ça quand on fait de la scène ?
Je sais pas, mais moi, en tous les cas, c'est quelque chose... En fait, j'ai pas fait de sport avant, je crois, 20 ans.
Et puis vous avez 18-19 ans. Démarré tout de suite avec des
mais là,
sports extrêmes.
Ça me faisait chier. Évidemment, j'étais comme tous ces mômes dont les parents là, ont inscrit, ont fait un stage de tennis, va faire du football, essaye le judo. Bon, si c'est pas le judo, c'est le taekwondo. Et j'ai arrêté tout au bout de 2-3 semaines. J'étais flemmard. Je ne m'épanouissais pas dans le sport. Et effectivement, la course à pied, notamment, m'a happé. Il y a cette
mais comment
fameuse...
alors ?
Mais je sais, en fait, je me souviens que je trouvais que marcher, c'était perdre du temps. Donc, à chaque fois que j'allais ou que je rentrais de l'école ou que j'avais un rendez-vous, j'y allais en courant. J'arrivais tout le temps en transpiration. Je me souviens, mon père qui me disait parfois, mais arrête de courir. J'arrivais tout le temps en sueur. Et c'est devenu donc une sorte de besoin vital de rien faire en marchant, mais en courant,
parce
en courant.
Parce qu'en courant, et d'ailleurs, ils en savent quelque chose, les marathoniens ont produit beaucoup d'endorphines,
voilà.
N'est-ce pas ? La drogue naturelle du bien-être.
Et effectivement, quand je me suis dit, bah, tiens, ça serait peut-être pas intéressant de faire des courses, et j'ai commencé à faire donc des courses, des 10 km, des 20 km, puis les marathons. Et
Vous courez 42 km en combien de temps ?
Alors, je l'ai fait que 2 fois, mais le meilleur... Je devais faire moins de 4 heures d'après mes statistiques, et j'ai fait 4h10, mais ce qui m'a consolé, c'est que j'étais à plus de 10 km/h de moyenne. J'étais à 10,02 km/h de moyenne.
Waouh !
Et c'était à New York, parce que c'était mon rêve.
Oui,
aussi.
C'est ça, c'est le marathon
tellement...
New York.
Bah, je me suis dit, on fera peut-être pas souvent, donc quitte à le faire, fais-le.
Faisons
la
le
mec,
plus
voilà.
Famous.
Et je suis parti à New York avec des amis d'ailleurs, et ça a été un souvenir merveilleux.
Et le triathlon, vous êtes plus un coureur, plus un nageur ou un cycliste ?
Maintenant, je ne peux plus courir parce que je me suis un peu abîmé les genoux, donc je me suis mis à la natation. J'adore le vélo aussi. Et voilà, je trouve que c'est un petit défi et qu'on se lance, et c'est le dépassement de soi. Et il y a une fraternité sur le départ où on rencontre des gens qui sont différents. Parce qu'en plus, ça rassemble aussi beaucoup d'âges. C'est un sport, le fond, que ce soit la course ou les triathlons. Il y a du 20 ans et il y a des 60, 70 ans. Et donc, c'est génial.
Ce qui compte, c'est de terminer la course. Peu
et
à peu,
évidemment, voilà, ce qui
temps.
Compte, c'est ça.
Bien sûr. Alors, Jonathan Lambert, 1h22 avant la fin, la pièce que vous jouez à la Scala à Paris jusqu'à fin juin d'ailleurs, débute du mardi au samedi à 21h. Bon, 21h, ça laisse du temps en journée. Alors, vos journées, vous les vivez comment ? Vous tournez, vous écrivez, vous rêvez ?
Bah, je travaille sur différents projets, alors d'écriture en ce moment, voilà, et puis je me permets de me lever un petit peu tard, donc, mais non, j'ai plein de choses, ne serait-ce que 5 minutes 17, la réécriture, la préparation de la reprise de mon spectacle Rodolphe à partir d'octobre en tournée, puis voilà, des projets.
Et vous êtes dans la saison 2 de la série déjà culte de Canal, La Flamme, avec Jonathan Cohen, rebaptisé donc cette fois-ci Le Flambeau. Les Américains vont être jaloux de cette série.
Ah, Ah ben, ce serait beau, ouais. Écoutez, moi, je n'ai vu que deux épisodes parce que ça a été présenté à Cannes et c'était assez, pour ne pas dire très excitant. Ouais, très excitant. Ben, pour ceux qui ont aimé la saison 1, ils ne devraient pas être déçus. Et je
ça
pense
va encore plus loin
ça... Ouais, ouais, ouais.
Bah, est-ce possible?
Bah, dans la connerie, oui. Il n'y a pas de fond. Hein.
Bon, vous nous l'avez dit, vous allez reprendre la tournée de votre one-man show intitulée Rodolphe à l'automne. Ah, l'humour. Il n'y a pas d'humoriste en Chine. Il n'y a pas d'humoriste en Iran. Il n'y en a plus aucun en Russie. L'humour, ça se consomme en démocratie. C'est le miroir de la liberté. C'est un cliché de dire ça, mais
non,
réellement...
mais c'est vrai que c'est assez étonnant pour avoir écrit un spectacle autour de la dictature. Ce qui dérange le plus, finalement, mais l'ennemi juré d'un régime autoritaire, c'est l'humour. Pourtant, ce ne sont que des mots, ce ne sont que des phrases. Et cette
mais c'est
dérision
l'arme
là,
redoutée.
Bah oui, 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 parce que c'est tourné en dérision, ce qui, voilà, c'est désacraliser quelque chose qui évidemment doit l'être. C'est attaqué, c'est assez fascinant de voir. C'est pour ça que je suis parfois un peu choqué des réactions qu'on a sur un humoriste qui parfois fait une mauvaise vanne. Je pense qu'on a le droit aussi de se planter. Et surtout, cette fameuse question de peut-on rire de tous. Moi, je pars du principe que dès lors qu'on le fait avec le seul objectif de faire rire, de ne pas être méchant et pas faire du mal, alors parfois, on peut se tromper. Et bizarrement, j'ai l'impression que parfois... c'est quelque chose qui est... Il y a une sanction immédiate et on n'a pas le droit de se tromper. Alors que ça ne reste que des mots et il n'y a pas de mauvaise intention, me semble-t-il. Ouais, je trouve que parfois, il y a eu des sanctions un petit peu trop sévères.
En tout cas, pour rire de façon presque philosophique, vous nous donnez rendez-vous, Jonathan Lambert, à la Scala, à Paris, pour 1h22 avant la fin, avec Kian Kojandi et Adèle Saint-Phal. C'est trop court, hein, en fait, cette heure en votre compagnie. On se revoit bientôt hein, et on poursuit la conversation.
Ça mérite 1h22, votre émission aussi.
Ça mérite 1h22, exactement. Il est trop fort, ce garçon. À bientôt.
Merci beaucoup, bon week-end.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. 13h, 14h, Isabelle Morizet.